Je le regardais, perdu d'étonnement. Il était là, devant moi, bariolé, comme s'il s'était échappé d'une troupe de mimes, enthousiastes, fabuleux. Son existence même était improbable, inexplicable, tout à fait déconcertante. Il était un problème insoluble. Comment il avait subsisté, on n'arrivait pas à l'imaginer. Comment il avait réussi à arriver jusque-là, comment il avait trouvé moyen d'y rester, comment il ne disparaissait pas instantanément. « J'ai été un peu plus loin, » dit-il. « Puis encore un peu plus loin, jusqu'à ce que je sois allé si loin que je ne sais comment je retournerai jamais. N'importe, rien ne presse, je peux me débrouiller. Emmenez Kurt, vite, vite, je vous le dis. » Une magie de jeunesse enveloppait ses haillons multicolores, sa misère, sa solitude, l'essentielle désolation de ses futiles vagabondages. Des mois, des années durant, on ne lui aurait pas donné un jour à vivre. Et il était là, vivant, vaillant et sans souci, selon toute apparence indestructible, par la seule vertu de son peu d'années et de son audace étourdie. J'étais conquis jusqu'à éprouver une sorte d'admiration, d'envie. Une magie le poussait, une magie le gardait invulnérable. À coup sûr, il ne voulait rien de la brousse que l'espace de respirer et de passer outre. Son besoin, c'était d'exister et d'aller de l'avant au plus grand risque possible et avec un maximum de privation. Si la pureté absolue, sans calcul, sans côté pratique, de l'esprit d'aventure avait jamais gouverné un être humain, c'était ce garçon rapiécé. Je lui enviais presque la possession de cette modeste et claire flamme. Elle semblait avoir consumé toute pensée égoïste si complètement qu'alors même qu'il vous parlait, on oubliait que c'était lui, l'homme qui était là sous vos yeux, qui avait enduré tout cela. Je ne lui enviais pas son dévouement à Kurt, cependant. Il n'y avait pas réfléchi. Cela lui était venu et il l'acceptait avec une sorte d'avidité fataliste. Je dois dire que quant à moi, cela me parut la chose la plus dangereuse de tout point de vue qu'il eût jamais rencontrée. Ils étaient rencontrés inévitablement, comme deux navires encalminés proches l'un de l'autre, qui se frottent enfin les flancs. Je suppose que Kurt avait besoin d'un auditoire, puisqu'une certaine fois, campant dans la forêt, ils avaient causé toute la nuit, ou que, plus probablement, Kurt avait causé. « Nous avons parlé de tout, » dit-il, transporté à ce souvenir. « J'ai oublié que le sommeil existait. La nuit n'a pas semblé durer une heure. Tout, tout, de l'amour aussi. « Ah, il vous a parlé d'amour ? » dis-je, fort amusé. « Ce n'est pas ce que vous imaginez, » s'écria-t-il, presque avec passion. « C'était en général. Il m'a fait voir des choses, des choses. » Il leva les bras. Nous étions sur le pont à ce moment-là, et le chef de mes coupeurs de bois, paraissant tout auprès, tourna vers lui ses yeux lourds et brillants. Je regardai alentour, et je ne sais pourquoi, je vous assure que jamais, jamais auparavant cette terre, ce fleuve, cette jungle, l'arche même de ce ciel enflammé, ne m'avait paru si privé d'espoir, si sombre, si impénétrable à la pensée humaine, si impitoyable à la faiblesse humaine. Et depuis, vous avez été constamment avec lui, naturellement, dis-je. Au contraire, il semble que leur connaissance avait été très fragmentée par des causes variées. Il avait réussi, comme il me l'a pris fièrement, à soigner Kurt et à le tirer de deux maladies. Il s'y référait comme il eût fait à quelque exploit périlleux. Mais en règle générale, Kurt s'aventurait seul, loin dans les profondeurs de la forêt. Très souvent, à mon arrivée à ce poste, j'avais à attendre des jours et des jours avant qu'il ne survienne, dit-il. Ah, ça valait l'attente, parfois. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il explorait ou quoi ? Demandai-je. Ah oui, bien sûr. Il avait découvert des tas de villages, un lac aussi. Il ne savait pas exactement dans quelle direction. C'était dangereux d'en demander trop, mais en général, ses expéditions avaient eu l'ivoire pour but. Mais il n'avait plus de marchandises à troquer à ce stade, objectai-je. Il reste encore maintenant un bon stock de cartouches, dit-il, regardant ailleurs. Pour parler franc, il pillait le pays, dis-je. Il fit oui de la tête. Pas tout seul, sûrement. Il marmonna quelque chose concernant les villages d'autour de ce lac. Kurt se faisait suivre de la tribu, hein ? Suggérai-je. Il s'agita un peu. Il l'adorait, dit-il. Le ton de ses paroles était si étrange que je regardais avec une insistance d'inquisiteur. Il joignait curieusement le désir et le refus de parler de Kurt. L'homme emplissait sa vie, occupait ses pensées, dominait ses émotions. « Que pourrait-on attendre d'autre ? » s'exclama-t-il. Il arrivait sur eux avec le tonnerre et la foudre, voyez-vous, et ils n'avaient jamais rien vu de pareil. C'était terrible. Il pouvait être très terrible. On ne peut pas juger M. Kurt comme on ferait un homme ordinaire. Non, non, non. Eh bien, pour vous donner une idée, simplement, je peux bien vous dire qu'il a voulu me tirer dessus aussi un jour. Mais je ne le juge pas. « Vous tirez dessus ? » m'écriai-je. « Pourquoi ?»« Eh bien, j'avais un petit stock d'ivoire que le chef du village proche de ma maison m'avait donné. Voyez-vous, je leur tuais du gibier. Eh bien, il le voulait et ne voulut pas entendre raison. Il déclara qu'il me tuerait à moins que je ne lui donne l'ivoire et après disparaisse du pays. Car il le pouvait et il en avait envie. Et il n'y avait rien au monde pour l'empêcher de tuer qui bon lui semblait. Et c'était vrai en plus. Je lui ai donné l'ivoire. Qu'est-ce que ça pouvait me faire ? Mais je n'ai pas disparu. Non, non. Je ne pouvais pas le quitter. Il a fallu que je fasse attention, bien sûr, jusqu'à ce qu'on se réconcilie pour un temps. Il a fait sa seconde maladie à ce moment-là. Après, il a fallu que je me tienne à l'écart. Mais ça m'était égal. Il vivait surtout dans ces villages du lac. Quand il descendait au fleuve, parfois il me prenait en amitié. Et parfois il valait mieux faire attention. C'est un homme qui a trop souffert. Il détestait tout ça. Et pourtant, il ne pouvait pas s'en aller. Quand j'ai pu le faire, je l'ai supplié d'essayer de partir à temps. J'ai proposé de revenir avec lui. Il disait oui, puis il restait. Il repartait à une autre chasse à l'ivoire. Il disparaissait des semaines entières, s'oubliait lui-même, presque parmi ses gens, s'oubliait. Vous voyez ? Mais il est fou, dis-je. Il protesta avec indignation. Monsieur Kurtz ne pouvait pas être fou. Si je l'avais entendu parler seulement 2 jours plus tôt, je n'oserais rien insinuer de pareil. J'avais pris mes jumelles pendant que nous causions, et je regardais la rive, balayant la lisière de la forêt de chaque côté de la maison et derrière. D'être conscient qu'il y avait des gens dans cette brousse, si muette, si tranquille, aussi muette, aussi tranquille que la maison en ruine de la colline, me mettait mal à l'aise. Il n'y avait pas un signe sur la face de la nature de ce conte stupéfiant qui m'était moins dit que suggéré par exclamations désolées, complétées par des haussements d'épaules, des phrases interrompues, des indications finissant en profonds soupirs. Les bois étaient impassibles, comme un masque, lourd, comme la porte close d'une prison. Ils regardaient avec leur air de connaissance cachée, d'attente patiente, de silence inapprochable. Le russe m'expliquait que ce n'était que récemment que M. Kurtz s'était descendu au fleuve, amenant avec lui tous les guerriers de cette tribu du lac. Il était resté absent plusieurs mois, se faisant adorer, je suppose, et il était descendu subitement, dans l'intention, selon toute apparence, de lancer un raid, soit sur l'autre rive, soit en aval. Évidemment, l'appétit de plus d'ivoire encore avait triomphé des aspirations, dirais-je, moins matérielles. Cependant, son état avait brusquement beaucoup empiré. « J'ai entendu dire qu'il était là, inerte, et j'ai remonté. J'ai pris le risque, » dit le russe. « Ah, il va mal, très mal. » Je braquai mes jumelles sur la maison. Il n'y avait pas signe de vie, mais on voyait le toit en ruine, le long mur de pivet se montrant au-dessus des herbes, avec 3 petits carrés de fenêtres, tous de tailles différentes. Tout cela mis à portée de ma main, pour ainsi dire. Puis je fis un mouvement brusque, et l'un des piquets qui restait de cette palissade disparut surgit dans le champ des jumelles. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais été frappé à distance par certains efforts d'ornementation assez remarquables dans l'aspect ruiné de l'endroit. Maintenant, je voyais soudain de plus près, et le premier effet fut de me faire rejeter la tête en arrière comme pour esquiver un coup. Puis je passais soigneusement de piqué en piqué avec mes jumelles, et je constatais mon erreur. Ces boules rondes n'étaient pas ornementales mais symboliques. Elles étaient expressives et déconcertantes, frappantes et troublantes, de quoi nourrir la pensée aussi les vautours, s'il y en avait eu à regarder du haut du ciel. Mais en tout cas, telles fourmis qui seraient assez entreprenantes pour monter au piquet. Elles auraient été encore plus impressionnantes, ces têtes ainsi fichées, si les visages n'avaient pas été tournés vers la maison. Une seule, la première que j'avais distinguée, regardait de mon côté. Je ne suis pas aussi choqué que vous pouvez le penser. Mon sursaut en arrière n'avait été réellement qu'un mouvement de surprise. Je m'étais attendu à voir une boule de bois, comprenez-vous. Je retournai délibérément à la première repérée, et elle était bien là, noire, desséchée, ratatinée, les paupières closes, une tête qui semblait dormir en haut de ce piquet, et avec les lèvres sèches et rentrées, qui montraient les dents en une étroite ligne blanche, souriait aussi, souriait continuellement, de quelque rêve interminable et jovial, dans son sommeil éternel. Je ne révèle pas de secrets commerciaux. En fait, le directeur devait dire que les méthodes de M. Kurtz avaient perdu ce district. Je n'ai pas d'opinion sur ce point, mais je voudrais que vous compreniez clairement qu'il n'était guère profitable que ces têtes soient là. Elles montraient seulement que M. Kurtz manquait de mesure dans la satisfaction de ses passions variées, que quelque chose manquait chez lui, une petite chose qui, quand le besoin se faisait urgent, ne se trouvait pas sous sa magnifique éloquence. S'il était lui-même conscient de cette déficience, je ne saurais dire. Je pense que cette connaissance lui vint à la fin, seulement tout à la fin. Par contre, la brousse sauvage l'avait trouvé de bonne heure et avait tiré de lui une terrible vengeance après sa fantastique invasion. Elle lui avait murmuré, je crois, des choses sur lui-même qu'il ne savait pas, des choses dont il n'avait pas idée tant qu'il n'eut pas pris conseil de cette immense solitude, et le murmure s'était montré d'une fascination irrésistible. Il avait éveillé des échos sonores en lui parce qu'il était creux à l'intérieur. Je posai les jumelles et la tête qui avait paru assez proche pour qu'on lui parlât sembla aussitôt avoir bondi loin de moi, passant dans un lointain inaccessible. L'admirateur de M. Kurtz était un peu décontenancé. D'une voix précipitée, indistincte, il commença à m'assurer qu'il n'avait pas osé enlever ses, disons, symboles. Il n'avait pas peur des indigènes. Il ne bougerait pas avant que M. Kurtz n'ait donné le mot. Son ascendant était extraordinaire. Leur camp entourait l'endroit et les chefs venaient chaque jour le voir. Il rampait. « Je ne veux rien savoir des cérémonies usitées à l'approche de M. Kurtz !» m'écriai-je. Curieux, ce sentiment qui m'envahit que de tels détails seraient plus intolérables que ces têtes qui séchaient sur des pieux sous les fenêtres de M. Kurtz. Après tout, elles ne faisaient qu'un spectacle sauvage, tandis qu'il me semblait d'un bond avoir été transporté dans une région sans lumière de subtiles horreurs, par rapport à quoi la pure sauvagerie, sans complications, était un véritable soulagement, étant une chose qui avait le droit d'exister, évidemment, à la lumière du jour. Le jeune homme me regardait avec surprise. Je suppose qu'il ne lui était pas venu à l'esprit que M. Kurtz n'était pas une de mes idoles. Il avait oublié que je n'avais entendu aucun de ses splendides monologues sur « Qu'était-ce donc ?» l'amour, la justice, la conduite de la vie, ou quoi encore. Si cela avait abouti à ramper devant M. Kurtz, il rampait autant que le plus parfait sauvage. « Je n'avais pas idée de l'état des choses, dit-il. Ces têtes étaient des têtes de rebelles. » Je l'outrageais excessivement par mon rire. « Des rebelles ? Quelle serait la prochaine définition que j'entendrais ? Il y avait eu les ennemis, les criminels, les ouvriers. Ceux-ci étaient des rebelles. Ces têtes de rebelles me paraissaient bien soumises sur leur piquet. » « Vous ne savez pas comment une pareille vie éprouve un homme comme Kurtz !» s'écria son dernier disciple. « Bon, et vous » dis-je. « Moi, je suis un homme simple. Je n'ai pas de grande pensée. Je ne veux rien de personne. Comment pouvez-vous me comparer à ?» Ce qu'il éprouvait était au-delà des mots, et tout à coup il s'effondra. « Je ne comprends pas, » gémit-il. « J'ai fait de mon mieux pour le garder en vie, et c'est tout. Je n'ai pas pris part à tout ça. Je n'ai pas de talent. » Il n'y a pas eu une goutte de médicament ou une bouchée d'alimentation pour malade depuis des mois ici. Il a été honteusement abandonné. Un homme comme ça, avec de pareilles idées. Honteusement. Voilà 10 nuits que je ne dors pas. » Sa voix se perdit dans le calme du soir. Les ombres allongées de la forêt avaient glissé vers le bas de la colline, pendant que nous parlions, avaient dépassé largement la masure en ruine, la rangée symbolique de piquets. Tout cela était dans l'ombre, tandis que nous, en bas, nous étions encore dans le soleil, et l'étendue du fleuve au niveau de l'Essartage luisait d'un éclat immobile, éblouissant, entre des boucles obscures dans l'ombre au-dessus et au-dessous. On ne voyait âme qui vive sur le rivage. Les buissons ne bruissaient pas. Soudain, au tournant de la maison, un groupe d'hommes apparurent comme s'ils avaient surgi du sol. Ils marchaient pris jusqu'à la taille dans les grandes herbes, en un corps compact, portant entre eux une civière improvisée. Immédiatement, dans le vide du passage, du paysage, un cri s'éleva, dont la stridence aiguë perça l'air tranquille comme une flèche aiguisée qui aurait volé droit au cœur même de la terre. Et comme par enchantement des flots d'êtres humains, d'une humanité nue, des sagaies à la main, des arcs, des boucliers, le regard farouche et les mouvements sauvages se déversèrent dans l'espace au-dessous de la forêt sombre et pensive. Les buissons s'agitèrent, l'herbe fut un moment secouée, puis tout retomba dans une immobilité attentive. Maintenant, s'il ne leur dit pas ce qu'il faut, nous sommes tous perdus, dit le Russe à mon coude. Le groupe d'hommes autour de la civière s'était arrêté aussi, à mi-chemin du vapeur, comme pétrifié. Je vis l'homme étendu dessus s'asseoir, efflanqué, un bras levé, au-dessus des épaules des porteurs. Espérons que l'homme qui parle si bien de l'amour en général trouvera une raison particulière de nous épargner cette fois, dis-je. Je ressentais amèrement l'absurde danger de notre situation, comme si d'être à la merci de cet abominable fantôme eût été une nécessité déshonorante. Je n'entendais pas un son, mais dans mes jumelles je vis le maigre bras tendu dans un geste d'autorité, la mâchoire inférieure bouger, les yeux de cette apparition briller sombrement dans la tête osseuse qui faisait des gestes brusques et grotesques. Kurtz. Kurtz, ça veut dire court en allemand, hein? Eh bien, le nom était aussi vrai que tout le reste de sa vie et de sa mort. Il semblait long d'au moins 7 pieds. Sa couverture était tombée et son corps en émergeait pitoyable et horrifiant comme d'un linceul. Je voyais sa cage thoracique tout agitée, les os de son bras brandis. C'était comme si une image inanimée de la mort taillée dans du vieil ivoire avait agité la main avec des menaces en direction d'une foule immobile d'hommes faits de bronze sombre et luisant. Je le vis ouvrir la bouche toute grande, ce qui lui donnait un aspect étrange de voracité, comme s'il avait voulu avaler l'air entier, toute la terre, tous les hommes présents devant lui. Une voix profonde vint affaiblie jusqu'à moi. Il avait dû crier. Il retomba soudain en arrière. La litière fut secouée, tandis que les porteurs avançaient de nouveau à pas chancelants, et presque en même temps je remarquai que la foule des sauvages disparaissait sans aucun mouvement perceptible de retraite, comme si la forêt qui avait rejeté ces êtres si soudainement les avait aspirés de nouveau comme serait une haleine dans une inspiration prolongée. Quelques-uns des pèlerins derrière la civière portaient ses armes, 2 fusils de chasse, un lourd fusil de guerre et une légère carabine à répétition, les foudres de ce pitoyable Jupiter. Le directeur, qui marchait près de sa tête, se pencha sur lui et murmura. On le déposa dans une des petites cabines, juste la place d'une couchette et d'un siège pliant ou deux, vous voyez ça. Nous avions apporté son courrier en retard, et son lit fut jonché d'enveloppes déchirées et de lettres ouvertes. Sa main errait faiblement parmi ses papiers. Je fus frappé par la flamme de ses yeux et par la langueur composée de son expression. Ce n'était pas tellement l'épuisement de la maladie. Il ne semblait pas souffrir. Cette ombre paraissait assouvie et calme, comme si pour le moment elle avait eu son content de toutes les émotions. Il froissa l'une des lettres et, me regardant en face, dit « Je suis heureux ». Quelqu'un lui avait écrit à mon sujet. Voilà que ses recommandations particulières recommençaient. Le volume d'élocution qu'il émettait sans effort, presque sans prendre la peine de remuer les lèvres, me stupéfia. Une voix. Elle était grave, profonde, vibrante, alors que l'homme ne paraissait pas capable d'un murmure. Cependant, il lui restait assez de force, factice sans nul doute, pour manquer causer notre perte, comme vous allez l'apprendre. Le directeur apparut silencieux dans la porte. Je sortis aussitôt et il tira le rideau après moi. Le Russe, que les pèlerins examinaient curieusement, avait les yeux fixés sur la côte. Je suivis la direction de son regard. De sombres formes humaines se distinguaient au loin, évoluant indistinctement à la lisière obscure de la forêt, tandis que près du fleuve 2 corps de bronze, appuyés sur de grandes lances, se tenaient dans le soleil, sous de fantastiques coiffures de peau tachetée, guerriers figés dans une immobilité de statue. Et de droite à gauche, le long du rivage éclairé, une femme se déplaçait, apparition sauvage et magnifique. Elle marchait à pas mesurés, drapée dans des étoffes rayées à franges, foulant fièrement le sol dans un tintement léger et scintillant d'ornements barbares. Elle portait la tête haute. Sa chevelure était disposée en forme de casque. Elle avait des jambières de cuivre jusqu'aux genoux, des gantelets de fil de cuivre jusqu'aux coudes, une tache écarlate sur sa joue brune, d'innombrables colliers de perles de verre au cou. Des choses étranges, des gris-gris, dons d'hommes médecine, accrochés à elle, étincelaient et tremblaient à chaque pas. Elle devait porter sur elle la valeur de plusieurs défenses d'éléphants. Elle était sauvage et superbe, l'œil farouche, glorieuse. Il y avait quelque chose de sinistre et d'imposant dans sa démarche décidée. Et dans le silence qui était tombé soudain sur toute la terre attristée, la brousse sans fin, le corps colossal de la vie féconde et mystérieuse semblait la regarder, pensif, comme s'il eût contemplé l'image de son âme propre, ténébreuse et passionnée. Elle arriva au niveau du vapeur, s'arrêta et nous fit face. Son ombre allongée tombait jusqu'au bord de l'eau. Son visage avait un air tragique et farouche de tristesse égarée et de douleur muette mêlée à l'appréhension de quelques résolutions débattues à demi formées. Elle était debout à nous regarder sans un geste, pareil à la brousse même, avec un air de méditer sur un insondable dessein. Toute une minute se passa, puis elle fit un pas en avant. Il eut un tintement sourd, un éclair de métal jaune, un balancement de draperie à franges, et elle s'arrêta comme si le cœur lui avait manqué. Le jeune garçon à côté de moi grogna. Les pèlerins dans mon dos murmurèrent. Elle nous regardait tous comme si la vie avait dépendu de la fixité inébranlable de son regard. Soudain, elle ouvrit ses bras nus et les lança rigides au-dessus de sa tête, comme dans le désir irrésistible de toucher le ciel, et en même temps les ombres vives foncèrent sur la terre, balayèrent le fleuve, embrassant le vapeur dans une étreinte obscure. Un silence formidable était suspendu sur la scène. Elle se détourna et s'éloigna lentement, poursuivit sa marche en longeant la rive et s'enfonça dans les buissons sur la gauche. Une fois seulement, la lueur de son regard se retourna sur nous, dans la pénombre du taillis, avant qu'elle ne disparût. « Si elle avait fait mine de monter à bord, je crois vraiment que j'aurais été tenté de lui tirer dessus, » dit le rapiécé, très agité. « J'avais risqué ma vie tous les jours de cette dernière quinzaine pour la tenir hors de la maison. Elle est entrée un jour et elle a fait un raffut pour ces malheureux haillons que j'avais ramassés dans le magasin pour raccommoder mes habits. Je n'étais pas convenable. Au moins, ça devait être ça, car elle a parlé à Kurt comme une furie pendant une heure, en me montrant du doigt de temps en temps. Je ne comprends pas le dialecte de cette tribu-là. Heureusement pour moi, je crois que Kurt se sentait trop mal ce jour-là pour s'en soucier, ou ça aurait tourné mal. Je ne comprends pas. Non, ça me dépasse. Ah bien, tout ça est fini maintenant. » À ce moment, j'entendis la voix profonde de Kurt derrière le rideau. « Me sauver ? Sauver l'ivoire, vous voulez dire ? Ne m'en comptez pas. Me sauver, moi ? Mais c'est moi qui ai dû vous sauver. Vous interrompez mes projets maintenant. Malade ! Malade, pas si malade que vous voudriez croire. N'importe, je finirai par mener mes idées à bien. Je reviendrai. Je vous montrerai ce qu'on peut faire. Vous et vos petites idées de 4 sous, vous vous mettez en travers des miennes. Je reviendrai. Je... » Le directeur sortit. Il me fit l'honneur de me prendre par le bras et de me prendre à part. « Il est très bas, dit-il. » Il jugea nécessaire de soupirer, mais n'alla pas jusqu'à montrer de la constance dans sa tristesse. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui, n'est-ce pas ? Mais il ne faut pas se dissimuler, que M. Kurtz a fait plus de mal que de bien à la compagnie. Il n'a pas vu que le temps n'était pas venu d'une action brusquée. Prudemment, prudemment, voilà mon principe. Il faut encore être prudent. Le district nous est fermé pour un temps. Déplorable. Dans l'ensemble, le trafic souffrira. Je ne nie pas qu'il y ait une remarquable quantité d'ivoire, surtout fossile. Il faut le sauver, en tout cas. Mais voyez comme ma position est précaire. Et pourquoi ? Parce que la méthode est vicieuse. « Vous appelez ça, » dis-je, regardant vers la rive, « une méthode vicieuse ?»« Sans aucun doute, » s'exclama-t-il avec emportement. « Pas vous ?»« Pas de méthode d'aucune sorte, » murmurai-je après un temps. « Exactement, » il exultait. « Je voyais ça venir, montre un défaut complet de jugement. C'est mon devoir de le souligner à l'autorité responsable. « Ah, » dis-je, « cette personne, comment s'appelle-t-il ? Le briquetier vous fera un rapport bien présenté. » Il parut un temps confondu. Il me semblait que je n'avais jamais respiré une atmosphère si méprisable, et je me tournais en pensée vers Kurtz pour me soulager, positivement pour me soulager. « Néanmoins, je pense que M. Kurtz est un homme remarquable, » dis-je avec force. Il sursauta, laissa tomber sur moi un regard froid et lourd, dit très tranquillement « Il était » et me tourna le dos. L'heure de ma faveur était passée. Je me trouvais couplé avec Kurt comme partisan de méthodes pour lesquelles le temps n'était pas venu. J'étais vicieux. Ah, mais c'était quelque chose d'avoir au moins le choix de son cauchemar. Je m'étais tourné vers la brousse en réalité, pas vers Monsieur Kurtz, qui, j'étais prêt à l'admettre, était pratiquement enterré. Et pour un temps, il me sembla que moi aussi j'étais enterré dans une vaste tombe pleine d'inavouables secrets. Je sentais un poids intolérable m'oppresser la poitrine, l'odeur de la terre humide, la présence invisible de la corruption mystérieuse, les ténèbres d'une nuit impénétrable. Le Russe me tapa sur l'épaule. Je l'entendis marmonner et bredouiller quelque chose comme « Frère marin, pouvait pas dissimuler, connaissance de choses qui affecteraient la réputation de M. Kurtz. » J'attendis. Pour lui, évidemment, M. Kurtz n'était pas dans la tombe. Je soupçonne que pour lui, M. Kurtz était un des immortels. « Bon, dis-je enfin, parlez. Comme il se trouve, je suis l'ami de M. Kurtz, en un sens. » Il déclara avec beaucoup de forme que si nous n'avions pas été de la même profession, il aurait gardé la chose pour lui sans souci des conséquences. Il soupçonnait une malveillance active à son égard de la part de ces blancs qui « Vous avez raison, dis-je, me rappelant certaines conversations que j'avais surprises. Le directeur pense que vous devriez être pendu. » Il se montra préoccupé de cette information à un point qui m'amusa d'abord. « Je ferai mieux de m'esquiver tranquillement, » dit-il sérieusement. « Je ne peux plus rien pour Kurtz maintenant, et ils auraient vite fait de trouver une excuse. Qu'y a-t-il pour les arrêter ? Il y a un poste militaire à 300 milles d'ici. » « Eh bien, ma parole, » dis-je, « peut-être feriez-vous mieux de partir si vous avez des amis parmi les sauvages de par ici. »« Des tas, » dit-il. « Ils sont simples, et je n'ai pas de besoin, vous savez. » Il était là à se mordre la lèvre. Puis, « Je ne veux pas qu'il arrive malheur à ces blancs-ci, mais naturellement je pensais à la réputation de M. Kurtz. Mais vous êtes un frère marin et... »« D'accord, » dis-je après un temps. « La réputation de M. Kurtz est en bonne main avec moi. Je ne savais pas comme je disais vrai. » Il m'informa, baissant la voix, que c'était M. Kurtz qui avait commandé qu'on attaque le vapeur. Il détestait parfois l'idée d'être emmené, et parfois aussi... Mais je ne comprends pas ces choses. Je suis un homme simple. Il pensait que la peur vous ferait fuir, que vous renonceriez, le croyant mort. Je n'ai pas pu l'empêcher. Ah, j'ai passé de sales moments le mois dernier. Bon, dis-je, il est tiré d'affaire maintenant. Oui, marmonna-t-il, pas très convaincu apparemment. « Merci, dis-je, j'ouvrirai l'œil. »« Mais doucement, hein, » insista-t-il anxieusement. « Ce serait terrible pour sa réputation si qui que ce soit ici. » Je promis une complète discrétion avec la plus grande gravité. « J'ai une pirogue et trois noirs qui m'attendent pas très loin. Je file. Pourriez-vous me donner quelques cartouches de Martini Henry ?» Je pouvais, et je le fis, dans le secret requis. Il se servit, avec un clin d'œil vers moi, d'une poignée de mon tabac. Entre marins, vous savez, bon tabac anglais. À la porte de la cabine de pilotage, il se retourna. « Dites, vous n'avez pas une paire de souliers en trop ?» Il leva une jambe. « Regardez. » Les semelles étaient attachées avec des ficelles nouées, comme des sandales, sous ses pieds nus. Je dénichai une vieille paire, qu'il regarda avec admiration avant de la serrer sous son bras gauche. Une de ses poches, rouge vif, était gonflée de cartouches, de l'autre, bleu foncé, dépasser l'enquête de Towson, etc. Il semblait se considérer comme excellemment équipé pour une nouvelle rencontre avec la brousse. « Ah, jamais, jamais je ne rencontrerai un homme pareil. Vous auriez dû l'entendre réciter de la poésie. La sienne, en plus, à ce qu'il m'a dit. De la poésie. » Il roulait les yeux au souvenir de ses délices. « Ah, il m'a ouvert l'esprit. Adieu, dis-je. » Il me serra la main et disparut dans la nuit. Parfois, je me demande si je l'ai réellement vu, s'il était possible de rencontrer pareil phénomène. Quand je me suis réveillé, peu après minuit, son avertissement m'est venu à l'esprit avec sa suggestion de péril, qui semblait, dans la nuit étoilée, assez réelle pour que je me lève dans l'intention de jeter un coup d'œil. Sur la colline, un grand feu brûlait, qui éclairait capricieusement un coin biscornu du poste. L'un des agents, avec un détachement de nos noirs armés comme il fallait, monter la garde sur l'ivoire. Mais bien au fond de la forêt, des lueurs rouges oscillaient, qui semblaient monter et descendre du sol parmi des formes confuses, des colonnes d'intense noirceur. Elles montraient l'exacte position du camp où les adorateurs de M. Kurtz tenaient leur vigile inquiet. Le battement monotone d'un grand tam-tam emplissait l'air de coups sourds et d'une vibration prolongée. Un bourdonnement régulier de beaucoup d'hommes chantonnant, chacun pour lui-même une incantation sinistre, venait de la muraille plate et noire des bois, comme le bourdonnement des abeilles sort d'une ruche, et il avait un effet étrangement narcotique sur mes sens mal éveillés. Je crois que je m'assoupis appuyé sur le bastingage, jusqu'à ce qu'une explosion abrupte de cris, une éruption accablante de frénésie contenue et mystérieuse, m'éveilla stupéfait. Ce fut arrêté aussitôt et le bourdonnement sourd se poursuivit avec un effet de silence perceptible et apaisant. Je jetai un coup d'œil soudain à la petite cabine. Une lumière brûlait à l'intérieur. Monsieur Kurtz n'était pas là. Je crois que j'aurais donné l'alarme si j'avais cru mes yeux, mais je ne les crus pas tout d'abord. La chose semblait tellement impossible. Le fait est que je fus totalement paralysé par une terreur pure et sans nom, absolument abstraite, sans lien avec aucune forme distincte de danger physique. Ce qui rendait cette émotion si écrasante, c'était, comment la définir, la secousse mentale que j'éprouvais comme si quelque chose d'absolument monstrueux, d'intolérable à la pensée, d'odieux à l'âme, s'était soudain abattu sur moi. Cela ne dira bien entendu qu'une fraction de seconde, puis le sens habituel du danger banal, mortel, la possibilité d'assaut soudain et de massacre, ou de quelque chose de ce genre, que je voyais s'annoncer comme imminent, furent positivement bienvenus et me rendirent mon calme. J'en fus si apaisé, en fait, que je ne donnais pas l'alarme. Il y avait un agent boutonné dans son imperméable, qui dormait dans une chaise sur le pont à 3 pieds de moi. Les hurlements ne l'avaient pas réveillé. Il ronflait très doucement. Je le laissai à son sommeil et je bondis à terre. Je ne trahis pas M. Kurtz, il était écrit que je ne le trahirais jamais, que je resterais loyal au cauchemar de mon choix. J'étais anxieux de m'occuper seul de cette ombre. Jusqu'à ce jour, je ne sais pourquoi j'étais si jaloux de ne partager avec personne la noirceur particulière de cette épreuve. Dès que j'eus le pied sur la rive, je vis une trace, une large trace dans l'herbe. Je me rappelle l'exultation que j'éprouvais en me disant « Il ne peut pas marcher, il se traîne à 4 pattes, je le tiens. » L'herbe était humide de rosée. J'allais rapidement, les poings serrés. Je crois bien que j'avais vaguement idée de lui tomber dessus et de lui flanquer une raclée. Je ne sais pas. J'avais des idées idiotes. La vieille tricoteuse au chat envahissait ma mémoire, bien peu appropriée pour être assise à l'autre bout de cette affaire. Je revoyais une rangée de pèlerins décharger en l'air le plomb de leur martini tenu à la hanche. Je pensais que je n'arriverais pas à regagner le vapeur, et je m'imaginais vivant seul sans armes dans les bois jusqu'à un âge avancé. Ce genre d'idiotie, vous imaginez. Et je me rappelle que je confondais le battement du tam-tam avec celui de mon cœur, et que j'étais content de sa calme régularité. Je suivais la piste cependant, puis je m'arrêtais pour écouter. La nuit était très claire, un espace bleu sombre, étincelant de rosée et d'étoiles, dans lequel des choses sombres restaient très immobiles. Je croyais voir une sorte de mouvement devant moi. J'étais étrangement assuré de toute cette nuit-là. Positivement, je quittai la piste et je courus en un large demi-cercle, je crois bien en gloussant de rire, de façon à me trouver en avant de cette agitation, de ce mouvement que j'avais vu, si en vérité j'avais vu quelque chose. Je tournais Kurt comme si ça avait été un jeu de garçon. J'arrivais sur lui et s'il ne m'avait pas entendu venir, je lui serais même tombé dessus, mais il se releva à temps. Il se dressa, flageolant, long, pâle, indistinct, comme une vapeur exhalée par la terre et il oscilla légèrement, embrumé et muet devant moi, tandis que dans mon dos les feux se profilaient entre les arbres et que le murmure de multiples voix sortait de la forêt. J'avais adroitement coupé sa route, mais quand je lui fis vraiment face et que je repris positivement conscience, je vis le danger dans son étendue véritable. Il était loin d'être passé. S'il commençait à crier, il tenait à peine debout, mais il y avait encore beaucoup de force dans sa voix. « Partez, cachez-vous » dit-il avec cette intonation grave qu'il avait. C'était assez effrayant. Je regardais derrière moi. Nous étions à 30 mètres du feu le plus proche. Une silhouette noire, debout, marchait sur de longues jambes noires, agitant de longs bras noirs contre la lueur. Elle avait des cornes d'antilope, je crois, sur la tête. Quelque sorcier, quelque homme médecine, sans doute. Elle semblait suffisamment démoniaque. « Savez-vous ce que vous faites ? » murmurai-je. « Parfaitement, » répondit-il, élevant la voix pour ce mot unique. Je l'entendis lointain et pourtant fort, comme un salut dans un porte-voix. « S'il fait du barouf, nous sommes perdus, » pensais-je à part moi. Il était clair que ce n'était pas le moment de le boxer, outre l'aversion naturelle que j'éprouvais à l'idée de battre cette ombre, cette créature errante et tourmentée. « Vous serez perdus, » dis-je, « irrémédiablement perdus. » Il arrive qu'on ait de ces éclairs d'inspiration, voyez-vous. J'avais dit ce qu'il fallait, « quoiqu'à la vérité il lui eût été difficile d'être plus désespérément perdu qu'il n'était à ce moment même où étaient posées les fondations de notre intimité, destinées à durer jusqu'à la fin, jusqu'au-delà. « J'avais des plans immenses, » murmura-t-il, irrésolu. « Oui, » dis-je, « mais si vous essayez de crier, je vous casse la tête avec... » Il n'y avait auprès ni bâton ni pierre. « Je vous étranglerai pour de bon, » dis-je, me corrigeant. « J'étais au seuil de grandes choses, » plaida-t-il, d'une voix de désir et d'une mélancolie dans le ton qui me glaça le sang. « Et maintenant, à cause de cette stupide canaille... »« Votre succès en Europe est assuré dans tous les cas, » déclarai-je fermement. « Je ne tenais pas à devoir l'étrangler, vous comprenez, et en vérité, ça n'aurait pas servi à grand-chose, pratiquement. J'essayais de briser le charme lourd, silencieux de la brousse, qui semblait l'attirer contre son impitoyable poitrine, en éveillant les instincts oubliés de la brute, le souvenir de passions monstrueuses à satisfaire. Cela seul, j'en étais sûr, l'avait attiré jusqu'au fond de la forêt, jusqu'à la brousse, vers l'éclat des feux, la pulsation des tam-tams, le bourdonnement d'étranges incantations. Cela seul avait séduit son âme maudite, hors des limites des aspirations permises. Et, voyez-vous, la terreur de la situation, ce n'était pas de recevoir un coup sur la tête, bien que j'eusse un sentiment très vif de ce danger, là aussi, mais d'avoir affaire à un être auprès de qui je ne pouvais rien invoquer, haut ou bas. Je devais tout à fait, comme les nègres, l'invoquer, lui, sa propre dégradation exaltée et incroyable. Il n'y avait rien au-dessous de lui, et je le savais. Du pied, il s'était envoyé promener hors de la terre. Que le diable l'emporte, du pied, il avait mis la terre même en morceaux. Il était seul, et moi, devant lui, je ne savais pas si j'avais les pieds sur terre ou si je flottais en l'air. Je vous ai répété ce que nous avions dit, j'ai redit les phrases que nous avions prononcées, mais à quoi bon ? C'étaient les mots communs de tous les jours, les sons familiers des vagues qu'on échange chaque jour de la vie éveillée. Et après, ils avaient derrière eux, dans mon esprit, la terrible force de suggestion des mots entendus dans les rêves, des phrases dites dans les cauchemars. Une âme, si quelqu'un a jamais lutté avec une âme, je suis celui-là, et je ne discutais pas avec un fou non plus. Croyez-moi ou pas, son intelligence était parfaitement claire, concentré, il est vrai, sur lui-même avec une horrible intensité, mais clair. Et là se trouvait ma seule chance, sauf bien sûr à le tuer sur le champ, ce qui n'allait pas si bien, à cause du bruit inévitable. Mais son âme était folle. Seule dans la brousse sauvage, elle s'était regardée elle-même, et, par Dieu, je vous dis, elle était devenue folle. J'avais, pour mes péchés, je suppose, à passer par l'épreuve d'y regarder moi-même. Nulle éloquence n'aurait été si destructrice de la confiance qu'on pouvait garder à l'homme que son explosion dernière de sincérité. Il subissait une lutte intérieure. Je le voyais, je l'entendais. Je voyais l'inconcevable mystère d'une âme qui ne connaissait contrainte ni foi ni crainte et qui pourtant luttait à l'aveugle avec elle-même. Je ne perdis pas trop la tête, mais quand je le tins finalement étendu sur la couchette, je m'essuyai le front tandis que mes jambes tremblaient sous moi comme si j'avais porté des centaines de kilos sur mon dos, en bas de cette colline. Et pourtant, je n'avais fait que le soutenir, son bras osseux m'étreignant le cou, et il n'était guère plus lourd qu'un enfant. Quand le lendemain nous partîmes à midi, la foule, que j'avais su intensément présente, tout ce temps, derrière le rideau d'arbres, surgit à nouveau des bois, emplit la clairière, couvrit la pente d'une masse de corps de bronze nu, haletant, vibrant. Je portai le vapeur un peu en amont, puis virai vers l'aval, et 2000 regards suivirent les évolutions du féroce démon des eaux, éclaboussant, martelant, battant l'eau de sa terrible queue et soufflant dans l'air une fumée noire. En avant du premier rang, le long du rivage, 3 hommes, plâtrés de terre rouge vive de la tête aux pieds, se pavanaient d'un côté à l'autre, nerveusement. Quand nous nous retrouvâmes à leur niveau, ils se tournèrent face au fleuve, battirent des pieds, inclinèrent leurs têtes cornues, balancèrent leurs corps écarlates. Ils secouèrent en direction du féroce démon du fleuve un panache de plumes noires, une peau pelée à queue pendante, quelque chose qui semblait une gourde séchée. Ils criaient ensemble, par à coup, des chapelets de mots stupéfiants qui ne ressemblaient au son d'aucune langue humaine. Et les profonds murmures de la foule, soudain interrompus, étaient comme les répons de quelque litanie satanique. Nous avions porté Kurz dans la cabine de pilotage. On y respirait mieux. Étendu sur la couchette, il regardait fixement par le volet ouvert. Il eut un remous dans la masse des corps, et la femme à tête casquée, aux joues brunes, se précipita jusqu'au bord même du fleuve. Elle tendit les mains, cria quelque chose, et toute cette sauvage multitude reprit le cri en un cœur hurlant de formules articulées, rapides, haletantes. « Vous comprenez ça ?» demandai-je. Il regardait toujours, à travers moi, de ses yeux enflammés de désir, exprimant à la fois la tristesse et la haine. Il ne répondit pas, mais je vis un sourire au sens indéfinissable, paraître sur ses lèvres décolorées, qui un instant après bougèrent convulsivement. « Que je ne comprenne pas !» dit-il lentement, perdant le souffle, comme si les mots lui avaient été arrachés par une puissance surnaturelle. Je tirai la corde du sifflet, parce que je voyais les pèlerins à bord préparer leurs carabines avec l'air d'escompter une bonne rigolade. À la soudaine stridence, il eut un mouvement de terreur abjecte dans cette masse de corps agglutinés. « Mais non, ne les faites pas se sauver de peur !» cria quelqu'un, d'une voix désolée, sur le pont. Je tirai la corde, encore et encore. Il courait en désordre, il sautait, il s'aplatissait, il virevoltait, il esquivait la terreur volante du bruit. Les trois hommes rouges étaient tombés à plat, figure contre terre, sur le rivage, comme tués d'un coup de feu. Seule la femme barbare et superbe ne broncha pas, m'étendit tragiquement ses bras nus après nous, par-dessus le fleuve étincelant et sombre. Là-dessus, cette bande de crétins sur le pont se payèrent leur petite partie, et je ne vis plus rien dans la fumée. Le courant brun nous emportait rapidement loin du cœur des ténèbres, vers la mer, à deux fois la vitesse de notre montée. Et la vie de Kurt s'écoulait rapidement, elle aussi, refluée de son cœur vers la mer du temps inexorable. Le directeur était très placide, n'ayant plus d'anxiété vitale maintenant. Il nous embrassait tous les deux dans un regard compréhensif et satisfait. L'affaire s'était conclue aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Je voyais approcher le temps où je resterais seul du parti de la mauvaise méthode. Les pèlerins me considéraient avec défaveur. J'étais mis, pour ainsi dire, au rang des morts. C'est bizarre la façon dont j'acceptais cette association imprévue, ce choix des cauchemars qui m'était imposé dans le pays ténébreux envahi par ces spectres mesquins et avides. Kurtz discourait. Une voix. Elle retentit, profonde jusqu'au bout. Elle survécut à sa force pour cacher dans de magnifiques plis d'éloquence les ténèbres arides de son cœur. Ah, il a lutté. Les déserts de sa tête lasse étaient hantés, maintenant par des images spectrales, de richesse, de gloire, qui avaient pour centre son don indestructible d'expression noble et fière. Ma promise, mon poste, ma carrière, mes idées, tels étaient les sujets de ses déclarations intermittentes de sentiments élevés. L'ombre du Kurtz originel fréquentait le chevet de la doublure creuse, dont le sort serait d'être enseveli bientôt dans l'humus de la terre primévale. Mais l'amour diabolique, comme la haine surnaturelle des mystères, qu'elle avait pénétré et lutté pour la possession de cette âme rassasiée d'émotions primitives, avide d'une gloire mensongère, d'une fausse distinction, de toutes les apparences du succès et de la puissance. Parfois, il était misérablement enfantin. Il voulait des rois pour l'accueillir à la gare à son retour de quelque sinistre nulle part, où il se proposait d'accomplir de grandes choses. Vous leur faites voir qu'il y a quelque chose en vous de réellement profitable, et du coup il n'y aura pas de limite à la reconnaissance de votre talent, disait-il. Naturellement, il faut prendre soin des motifs, de bons motifs, toujours. Les grandes longueurs du fleuve qui semblaient ne faire qu'une, les courbes monotones toutes pareilles, glissaient au passage du vapeur avec leur multitude d'arbres séculaires, veillant patiemment sur ce fragment sordide d'un autre monde, l'avant-coureur du changement, de la conquête, du commerce, des massacres, des bénédictions. Je regardais en avant, je pilotais. « Fermez le volet !» dit Kurt soudain un jour. « Je ne peux pas supporter de regarder ça !» Je le fis, il eut un silence. « Ah, mais je vous tordrai tout de même le cœur !» cria-t-il à l'adresse de l'invisible brousse. Nous sommes tombés en panne, comme je m'y attendais, et il a fallu jeter l'ancre pour réparer en haut du Nil. Ce délai fut la première chose qui ébranla la confiance de Kurtz. Un matin, il me donna un paquet de papier et une photographie, le tout ficelé d'un lacet de souliers. « Gardez ça pour moi, » dit-il. Ce funeste imbécile, il voulait dire le directeur, et capable de fouiner dans mes cantines quand je ne regarde pas. Dans l'après-midi, je le vis étendu sur le dos, les yeux fermés, et je me retirai discrètement, mais je l'entendis murmurer « Vivre comme on doit, mourir, mourir ». J'écoutai, il n'y eut rien d'autre. Répétait-il quelques discours dans son sommeil, ou était-ce un fragment de phrase de quelque article de journal ? Il avait écrit pour les journaux et se proposait de recommencer pour défendre mes idées. C'est un devoir. Ces ténèbres étaient impénétrables. Je le regardais comme on regarde d'en haut un homme gisant au fond d'un précipice où le soleil ne brille jamais. Mais je n'avais pas beaucoup de temps à lui donner parce que j'aidais le mécanicien à démonter les cylindres percés, à redresser un joint tordu et autres semblables affaires. Je vivais dans un gâchis infernal de rouille, de limaille, d'écrous, de boulons, de clés à molette, de drilles à rocher, des trucs que j'abomine parce que je me débrouille mal avec. Je veillais à la petite forge qu'heureusement nous avions à bord. Je peinais à la besogne dans un misérable tas de ferraille, sauf quand je tremblais trop pour tenir debout. Un soir que j'entrais avec une bougie, je fus saisi de l'entendre dire d'une voix un peu tremblée « Je suis là couché dans le noir à attendre la mort ». La lumière était à un pied de ses yeux. Je me forçais à murmurer « Bah, des bêtises !» debout au-dessus de lui, comme pétrifié. De comparable au changement qui altéra ses traits, je n'avais jamais rien vu et j'espère ne rien revoir. Oh, je n'étais pas ému, j'étais fasciné. C'était comme si un voile se fût déchiré. Je vis sur cette figure d'ivoire une expression de sombre orgueil, de puissance sans pitié, de terreur abjecte, de désespoir intense et sans rémission. Revivait-il sa vie dans tous les détails du désir, de la tentation, de l'abandon, pendant ce moment suprême de connaissance absolue? Il eut un cri murmuré envers une image, une vision, il eut par deux fois un cri qui n'était qu'un souffle. « Horreur ! Horreur !» Je soufflai la bougie et je sortis de la cabine. Les pèlerins dînaient au carré et je pris place en face du directeur qui leva vers moi un regard interrogateur que je parvins à ignorer. Il se renversa un peu, serein, avec ce sourire particulier dont il scellait les profondeurs inexprimées de sa petitesse. Une pluie continue de petites mouches frisselait sur la lampe, sur la nappe, sur nos mains et sur nos visages. Soudain, le boy du directeur passa son insolente tête noire par l'encadrement de la porte et dit d'un ton de mépris cinglant « Monsieur Kurtz, lui mort !» Tous les pèlerins se précipitèrent dehors pour voir. Je restai et je poursuivis mon dîner. Je crois bien que je fus considéré comme une brute insensible. Cependant, je ne mangeais pas beaucoup. Il y avait une lampe là, de la lumière, voyez-vous, et dehors il faisait si horriblement, horriblement noir. Je ne m'approchais plus de l'homme remarquable qui avait prononcé un jugement sur les aventures de son âme sur cette terre. La voix était disparue. Qu'avait-il eu d'autre ? Mais je n'ignore pas, bien sûr, que le lendemain, les pèlerins enterrèrent quelque chose dans un trou boueux. Après quoi, ils faillirent bien m'enterrer. Cependant, comme vous voyez, je n'allais pas sur le champ rejoindre Kurtz. Non, je restais à rêver jusqu'au bout le cauchemar et à montrer encore une fois ma loyauté envers Kurtz. La destinée, ma destinée. C'est une drôle de chose que la vie, ce mystérieux arrangement d'une logique sans merci pour un dessein futile. Le plus qu'on puisse en espérer, c'est quelques connaissances de soi-même, qui vient trop tard, une moisson de regrets inextinguibles. J'ai lutté contre la mort. C'est le combat le plus terne qu'on puisse imaginer. Il se déroule dans une grisaille impalpable, sans rien sous les pieds, rien alentour, pas de spectateurs, pas de clameurs, pas de gloire, sans grand désir de victoire, sans grande peur de la défaite, sans beaucoup croire à son droit, encore moins à celui de l'adversaire, dans une atmosphère écœurante de scepticisme tiède. Si telle est la forme de l'ultime sagesse, alors la vie est une plus grande énigme que ne pensent certains d'entre nous. J'étais à deux doigts de la dernière occasion de me prononcer, et je découvris, déconfit, que probablement je n'aurais rien à dire. C'est pour cela que j'atteste que Kurtz fut un homme remarquable. Il avait quelque chose à dire, il le dit. Depuis que j'avais moi-même risqué un œil par-dessus le bord, j'ai mieux compris le sens de ce regard fixe, qui ne voyait pas la flamme de la bougie, mais qui était assez ample pour embrasser tout l'univers, assez perçant pour pénétrer tous les cœurs qui battent dans les ténèbres. il avait résumé, il avait jugé. L'horreur ! C'était un homme remarquable. Après tout, c'était l'expression d'une sorte de croyance. Il y avait de la candeur, de la conviction, une note vibrante de révolte dans ce murmure. Elle avait le visage horrifique d'une vérité entreaperçue, le singulier mélange du désir et de la haine. Et ce n'est pas ma propre extrémité que je me rappelle le mieux, une vision de grisaille sans forme emplie de douleur physique et un mépris insoucieux de l'évanescence de toute chose, de cette douleur même. Non, c'est son extrémité à lui qu'il me paraît avoir vécu. C'est vrai, il avait franchi ce dernier pas, il était passé par-dessus le bord, tandis qu'il m'avait été permis de retirer mon pied hésitant. Et peut-être la seule différence est-elle là. Peut-être toute la sagesse et toute la vérité et toute la sincérité sont-elles strictement comprimées dans ce moment inappréciable de temps dans lequel nous sautons le pas par-dessus le seuil de l'invisible. Peut-être. J'aime à penser que mon résumé n'aurait pas été un mot d'insouciance méprisante. Mieux valait son cri, bien mieux. C'était une affirmation, une victoire morale payée d'innombrables défaites, de terreurs abominables, d'abominables satisfactions. Mais c'était une victoire. C'est pourquoi je suis resté fidèle à Kurt jusqu'au bout, et même au-delà, quand longtemps après j'ai entendu une fois de plus non sa voix à lui, mais l'écho de sa magnifique éloquence, jetée vers moi à partir d'une âme d'une pureté aussi transparente qu'une falaise de cristal. Non, ils ne m'ont pas enterré, quoi qu'il y ait eu une période que je me rappelle obscurément, avec des frémissements de stupeur, comme un passage à travers un monde inconvenable qui ne recelait espoir ni désir. Je me retrouvais dans la cité sépulcrale, j'en voulais à ces gens que je voyais courir par les rues pour se chiper quelques sous les uns aux autres, pour dévorer leur infâme cuisine, pour avaler leur mauvaise bière, pour rêver leurs rêves insignifiants et stupides. Ils empiétaient sur mes pensées. C'étaient des intrus de qui la connaissance de la vie était pour moi une irritante imposture, tant je me sentais certain qu'il n'était pas possible qu'ils connaissent les choses que je connaissais. Leur comportement, qui était simplement celui d'individus comme allant à leurs affaires dans la certitude d'une sécurité parfaite, me blessait comme les bravades outrageantes de la sottise en face d'un danger qu'elle est incapable de concevoir. Je n'avais pas spécialement le désir de les éclairer, mais j'avais quelque peine à me retenir de leur rire à la figure, plein comme ils étaient de stupide importance. Il se peut que je ne me sois pas porté très bien en ce temps-là. Je titubais dans les rues, il y avait diverses affaires à régler, ricanant amèrement face à des gens parfaitement respectables. J'admets que ma conduite était inexcusable, mais aussi bien ma température était rarement normale à l'époque. Les efforts de ma chère tante pour me rendre des forces semblaient tout à fait à côté de la question. Ce n'était pas mes forces qu'il fallait me rendre, c'était mon imagination qu'il fallait apaiser. Je gardais la liasse de papier que m'avait donné Kurtz sans savoir exactement quoi en faire. Sa mère était morte récemment, veillée, m'avait-on dit, par sa promise. Un homme visage glabre, l'air officiel, portant des lunettes cerclées d'or, me rendit visite un jour et sans qui, d'une façon d'abord détournée, ensuite suave mais pressante, sur ce qu'il lui plaisait de nommer certains « documents ». Je ne fus pas surpris, car je m'étais déjà deux fois chamaillé avec le directeur sur le sujet, là-bas. J'avais refusé de céder la moindre paperasse de ce paquet, et j'eus la même attitude vis-à-vis de l'homme aux lunettes. Il finit par se montrer obscurément menaçant, et avec beaucoup de vivacité fit valoir que la compagnie avait droit au moindre élément d'information sur ses territoires. Et, dit-il, la connaissance qu'avait M. Kurt de régions inexplorées avait dû, nécessairement, être considérable et particulière, compte tenu de ses grandes capacités et des déplorables circonstances dans lesquelles il avait été placé. Donc, je l'assurai que le savoir de M. Kurt, si large qu'il fût, ne portait pas sur des problèmes de commerce ou d'administration. Il invoqua alors le nom de la science. Ce serait une perte incalculable si, etc., etc. Je lui offris le rapport sur la suppression des coutumes sauvages, avec le post-scriptum arraché. Il le prit avidement, mais finit par faire la fine bouche, laissant paraître un air dédaigneux. « Ceci n'est pas ce que nous étions en droit d'atteindre, » remarqua-t-il. « N'attendez rien d'autre, » dis-je. « Il n'y a que des lettres personnelles. » Il se retira sur des menaces de poursuite judiciaire, et je ne le revis pas. Mais un autre type, qui se disait cousin de Kurt, survint deux jours après, anxieux d'apprendre tous les détails des derniers moments de son cher parent. Incidemment, il me donna à entendre que Kurt avait été essentiellement un grand musicien. « Il avait de quoi remporter un immense succès, » dit l'homme, qui était organiste, je crois, et dont les cheveux gris tombaient plats sur un col de paletot graisseux. Je n'avais pas de raison de mettre ces déclarations en doute. À ce jour, je suis incapable de dire quelle avait été la profession de Kurtz, s'il en avait eu une, quel était son talent principal. Je l'avais pris pour un peintre qui écrivait pour les journaux, à moins qu'il ne fût un journaliste qui savait peindre, mais même son cousin, qui prisait pendant l'entrevue, ne pouvait pas me dire ce qu'il avait été exactement. C'était un génie universel. Sur ce point, je tombai d'accord avec le vieux, qui là-dessus se moucha bruyamment dans un grand mouchoir de coton et se retira, en proie à une agitation sénile, emportant quelques lettres de famille et des mémorandas sans importance. Finalement, un journaliste soucieux d'apprendre quelque chose du sort de son cher collègue survint. Ce visiteur m'informa que la sphère véritable de Kurtz aurait dû être la politique, celle du Parti populaire. Il avait des sourcils raides et buissonneux, des cheveux hérissés coupés courts, un monocle sur un large ruban, et se faisant expansif, il confessa son opinion qu'en réalité Kurtz était bien incapable d'écrire. Mais pour Dieu, ce que l'homme pouvait parler. Il électrisait de grosses réunions. Il avait la foi, vous saisissez, il avait la foi. Il pouvait faire croire n'importe quoi. Il aurait été un superbe chef du parti extrême. « Quel parti ?» demandai-je. « N'importe lequel, » répondit l'autre. « C'était un extrémiste. » Est-ce que je n'étais pas d'accord ? J'acquiesçai. Est-ce que je savais ? Demanda-t-il avec un soudain éclair de curiosité, ce qui avait pu l'inciter à partir là-bas. « Oui, » dis-je, et séance tenante, je lui tendis le fameux rapport pour être publié, s'il le jugeait bon. Il le parcourut rapidement, marmonnant tout le temps, décida que ça irait, et s'en fut avec son butin. Je restai donc enfin avec un mince paquet de lettres et le portrait de la jeune fille. Je la trouvais belle, belle d'expression, veux-je dire. Je savais qu'on peut faire mentir même le soleil, mais on sentait que nulle manipulation de la lumière et de la pose n'aurait pu transmettre la délicate nuance de sincérité de ses traits. Elle semblait prête à écouter sans réserve mentale, sans un soupçon, sans une pensée égoïste. Je conclus que j'irai en personne lui rendre son portrait et ses lettres. Curiosité ? Oui, et aussi un autre sentiment, peut-être. Tout ce qui avait été à Kurtz m'était sorti des mains. Son âme, son corps, son poste, ses plans, son ivoire, sa carrière. Il ne restait que sa mémoire et sa promise, et je voulais abandonner cela, aussi, au passé, en un sens, restituer personnellement tout ce qui me restait de lui à cet oubli qui est le dernier mot de notre sort commun. Je ne me défends pas. Je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais vraiment. Peut-être était-ce une impulsion de loyauté inconsciente ou l'accomplissement d'une de ces nécessités ironiques qui se dissimulent dans les faits de l'existence. Je ne sais. Je ne puis dire, mais j'y allais. Je pensais que son souvenir serait comme ceux d'autres morts, accumulés dans la vie de chacun, une vague impression sur le cerveau d'ombre qui sont tombés sur lui dans leur prompt et final passage. Mais devant la grande et lourde porte, devant les hautes maisons d'une rue aussi tranquille et correcte, une allée bien tenue dans un cimetière, j'eus une vision de lui sur la civière, ouvrant une bouche vorace, comme pour dévorer toute la terre avec toute son humanité. Il vivait là devant moi, il vivait autant qu'il avait jamais vécu, une ombre, insatiable d'apparence splendide, de réalités effroyables, une ombre plus ténébreuse que l'ombre de la nuit, et drapée noblement dans les plis d'une éloquence fastueuse. La vision sembla entrer dans la maison avec moi, la civière, les porteurs spectraux, la foule sauvage, d'adorateurs soumis, l'obscurité des forêts, le scintillement de la longueur de fleuve entre les sombres courbes, le battement des tam-tams, régulier et sourd comme un battement de cœur, le cœur des ténèbres victorieuses. C'était un moment de triomphe pour la brousse, une invasion, une ruée vengeresse que, me semblait-il, j'aurais à contenir seul pour le salut d'une autre âme. Et le souvenir de ce que je l'avais entendu dire là-bas, avec ses silhouettes cornues qui bougeaient dans mon dos, dans la lueur des feux, la patience des bois, ces phrases brisées me revenaient, je les entendais de nouveau dans leur sinistre et terrifiante simplicité. Je me rappelais ces plaidoyers abjects, ces abjectes menaces, l'échelle colossale de ces méprisables désirs, la mesquinerie, le tourment, l'angoisse orageuse de son âme. Et plus tard, il me sembla retrouver sa manière composée et languide quand il dit un jour « Ce stock actuel d'ivoire est véritablement à moi. La compagnie ne l'a pas payé. Je l'ai rassemblé moi-même à de très grands risques personnels. Je crains qu'ils n'essaient de le réclamer comme le leur, cependant. Hum, c'est un cas difficile. Que pensez-vous que je dois faire? Résister, hein? Je ne veux rien d'autre que la justice. » Il ne voulait rien d'autre que la justice. Je tirai la sonnette devant une porte d'acajou au premier étage, et tandis que j'attendais, il semblait me dévisager du panneau de verre, de ce regard ample, immense, qui embrassait, condamnait, vomissait tout l'univers. Il me semblait entendre ce cri murmuré « Horreur, horreur !» Le crépuscule tombait. Je dus attendre dans un salon haut de plafond, avec trois grandes fenêtres sur toute la hauteur qui étaient comme trois colonnes lumineuses et drapées. Les pieds et les dossiers dorés du mobilier luisaient en courbes indistinctes. La haute cheminée de marbre était d'une blancheur froide et monumentale. Un piano à queue se dressait, massif, dans un coin, avec des lueurs foncées sur les surfaces plates qui faisaient penser à un sarcophage sombre et poli. Une haute porte s'ouvrit, se referma. Je me levai. Elle s'avança, tout en noir, la tête pâle, flottant vers moi dans le crépuscule. Elle était en deuil. Il y avait plus d'un an qu'il était mort, plus d'un an que la nouvelle en était arrivée. Il semblait qu'elle dût se souvenir et garder le deuil à jamais. Elle prit mes mains dans les siennes et murmura « J'avais appris votre venue ». Je remarquai qu'elle n'était pas très jeune, je veux dire pas une jeune fille. Elle avait une aptitude mûrie à la fidélité, à la confiance, à la souffrance. La pièce semblait s'être assombrie, comme si toute la triste lumière de la brumeuse soirée s'était réfugiée sur son front. Ses cheveux blonds, ce pâle visage, ce front pur, semblait entouré d'un halo cendré d'où les yeux sombres me regardaient. Ce regard était innocent, profond, confiant, ouvert. Elle portait sa tête triste comme si elle eût été fière de cette tristesse, comme si elle eût voulu dire « Moi, moi seul, je sais mener son deuil comme il le mérite ». Mais tandis que nous nous serrions encore les mains, une telle expression de terrible désolation parut sur son visage que je compris qu'elle était un de ces êtres qui ne sont pas les jouets du temps. Pour elle, il était mort seulement la veille. Et, par Dieu, l'impression était si forte que pour moi, aussi il semblait n'être mort que la veille, bien plus à cette minute même. Je les vis, elle et lui, dans le même instant, la mort de l'un et la tristesse de l'autre. Je vis la tristesse au moment même de la mort. Vous comprenez? Je les vis ensemble. Je les entendis ensemble. Elle avait dit, en reprenant profondément son haleine, « J'ai survécu. » Tandis que mes oreilles tendues semblaient entendre distinctement, mêlées à ce ton de regret désespéré, le murmure dans lequel il avait résumé son éternelle condamnation. Je me demandais ce que je faisais là, avec au cœur une sensation de panique, comme si je m'étais fourvoyé dans un lieu de mystère cruel et absurde qu'il ne sied pas un être humain de contempler. Elle me désigna une chaise. Nous nous assîmes. Je posai le paquet doucement sur la petite table, et elle mit sa main dessus. « Vous l'avez bien connu, » murmura-t-elle, après un moment de silence endeuillé. « L'intimité avance vite, là-bas, » dis-je. « Je l'ai connu aussi bien qu'il est possible qu'un homme en connaisse un autre. »« Et vous l'admiriez, » dit-elle. « C'était impossible de le connaître et de ne pas l'admirer, n'est-ce pas ?»« C'était un homme remarquable, » dis-je, d'une voix mal assurée. Puis devant l'appel de son regard fixe, qui semblait guetter d'autres paroles sur mes lèvres, je poursuivis. « Il était impossible de ne pas l'aimer, » finit-elle, avidement, me réduisant à un silence horrifié. « comme c'est vrai, mais quand on pense que personne ne l'a connu aussi bien que moi, j'avais toute sa noble confiance. C'est moi qui l'ai le mieux connu. »« C'est vous qui l'avez le mieux connu, » répétai-je, et c'était peut-être vrai. Mais avec chaque parole, la pièce s'assombrissait, et seul son front, lisse et blanc, restait illuminé par la lumière inextinguible de la croyance et de l'amour. « Vous étiez son ami, » poursuivit-elle. « Son ami, » répéta-t-elle un peu plus haut. « Il faut que vous l'ayez été, s'il vous a donné cela et s'il vous a envoyé à moi. Je sens que je puis vous parler, et oh, il faut que je parle. Je veux que vous, vous qui avez entendu ces dernières paroles, vous sachiez que j'ai été digne de lui. Ce n'est pas de l'orgueil. Oui, je suis fier de savoir que j'ai compris mieux que quiconque sur terre. Il me l'a dit lui-même. » Et depuis la mort de sa mère, je n'ai eu personne, personne à... J'écoutais. L'obscurité s'épaississait. Je n'étais pas même sûr que c'était le bon paquet qu'il m'avait donné. J'ai plutôt idée qu'il voulait que je prenne soin d'une autre liasse de ses papiers, qu'après sa mort, je vis le directeur examiner sous la lampe. Et la jeune femme parlait, soulageant sa peine dans la certitude de ma sympathie. Elle parlait comme on boit quand on a soif. J'ai entendu dire que ses fiançailles avaient rencontré le désaccord des siens. Il n'était pas assez riche, ou quelque chose de ce genre. Et en vérité, je ne sais s'il n'avait pas été pauvre toute sa vie. Il m'avait donné quelques raisons de déduire que c'était son impatience d'une relative pauvreté qui l'avait poussé à aller là-bas. Qui ne devenait pas son ami s'il l'entendait une fois parler, disait-elle. Il attirait les hommes parce qu'ils avaient de meilleurs. Elle me regarda avec intensité. C'est le don des grands, poursuivit-elle, et le son assourdi de sa voix semblait accompagné de tous les autres sons, pleins de mystère, de désolation et de tristesse, que j'ai jamais entendus. Les vaguelettes du fleuve, le murmure des arbres balancés par le vent, le chuchotement des foules, la vague résonance des mots incompréhensibles criés de loin, le bruit sourd d'une voix qui parle de plus loin que le seuil d'une nuit éternelle. « Mais vous l'avez entendu, vous savez !» s'écria-t-elle. « Oui, je sais, » dis-je avec au cœur une manière de désespoir, mais courbant la tête devant la foi qui était en elle, devant cette grande illusion salvatrice dont je n'aurais pas pu la défendre, dont je ne pouvais même pas me défendre moi-même. « Quelle perte pour moi, pour nous !» se corrigea-t-elle avec une belle générosité. Puis elle ajouta dans un murmure, « Pour le monde !» Aux dernières lueurs du crépuscule, je pus voir briller ses yeux, pleins de larmes qui ne tomberaient pas. J'ai été très heureuse, gâtée du sort, très fière, poursuivit-elle, trop gâtée, trop heureuse à court terme. Et maintenant je suis malheureuse pour la vie. Elle se leva. Ses cheveux blonds semblèrent prendre tout ce qui restait de lumière dans une lueur d'or. Je me levai aussi. Et de tout cela, poursuivit-elle, tristement, de tout ce qu'il promettait, de toute sa grandeur, de son âme généreuse, de son noble cœur, rien ne reste, rien qu'un souvenir, vous et moi. Nous nous souviendrons toujours de lui, dis-je en hâte. Non, s'écria-t-elle, il est impossible que tout cela soit perdu, qu'une pareille vie soit sacrifiée pour ne rien laisser que de la tristesse. Vous savez quel vaste plan il avait, j'en étais informé aussi. Je ne pouvais peut-être pas comprendre, mais d'autres en étaient informés. Quelque chose doit rester. Ces paroles, au moins, ne sont pas mortes. « Ces paroles resteront, » dis-je. « Et son exemple, » murmura-t-elle pour elle-même. Les regards se levaient vers lui, le bien paraissait dans chacune de ses actions. « Son exemple. »« C'est vrai, » dis-je, « son exemple aussi. »« Oui, son exemple, j'oubliais cela. »« Mais pas moi. Je ne peux pas croire, pas encore. Je ne peux pas croire que je ne le verrai plus, que personne ne le verra plus jamais, jamais, jamais. » Elle ouvrit les bras comme vers une forme qui se dérobait, l'étendit, noire, main pâle serrée, contre le reflet étroit qui s'éteignait de la fenêtre. Ne jamais le voir. Je le voyais assez clairement à cette minute. Je reverrai ce spectre éloquent aussi longtemps que je vivrai, et je la reverrai, elle aussi, une ombre tragique et familière, ressemblant dans ce geste à une autre, tragique aussi, et ornée d'amulettes impuissantes, tendant la nudité de ses bras bruns par-dessus le scintillement du fleuve infernal, le fleuve des ténèbres. Elle dit soudain très bas, « Il est mort comme il a vécu. » « Sa fin, » dis-je, une colère sourde montant en moi, « fut en tout point digne de sa vie. » « Et je n'étais pas avec lui, » murmura-t-elle. Ma colère tomba devant un sentiment d'infinie pitié. « Tout ce qui pouvait être fait, » marmottai-je. Ah, mais je croyais en lui plus que quiconque sur terre, plus que sa propre mère, plus que lui-même. Il avait besoin de moi, moi. J'aurais chéri chaque soupir, chaque mot, chaque signe, chaque regard. Je me sentis comme si une poigne glacée m'avait saisi la poitrine. Je vous en prie, dis-je d'une voix sourde. Pardonnez-moi, j'ai mené mon deuil si longtemps en silence, en silence. Vous avez été avec lui jusqu'à la fin? Je pense à sa solitude. Personne auprès pour le comprendre comme j'aurais compris. Peut-être personne pour entendre. Jusqu'à la fin, dis-je d'une voix chevrotante. J'ai entendu toutes ces dernières paroles. Je m'arrêtai effrayé. Répétez-les, murmura-t-elle d'un ton brisé. Je veux quelque chose, avec quoi vivre. J'étais sur le point de m'écrier. Vous ne les entendez pas ? Le crépuscule les répétait en murmures persistants tout autour de nous, murmures qui semblaient s'enfler, comme la première menace murmurée d'un vent qui se lève. « Horreur ! Horreur !» Son dernier mot, pour vivre avec, insista-t-elle. Ne comprenez-vous pas que je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Je me ressaisis et je parlais lentement. Le dernier mot qu'il ait prononcé, c'est votre nom. J'entendis un léger soupir, puis mon cœur s'arrêta, brutalement retenu par un cri exultant et terrible, par le cri d'inconcevable triomphe et d'indicible douleur. Je le savais, j'étais sûr. Elle savait, elle était sûre. Je l'entendis pleurer, elle s'était cachée le visage dans les mains. Il me semblait que la maison s'écroulerait avant que je puisse m'échapper, que le ciel me tomberait sur la tête. Mais rien n'arriva. Le ciel ne tomba pas pour de pareilles broutilles. Serait-il tombé, je me demande, si j'avais rendu à Kurtz la justice qui lui était due? N'avait-il pas dit qu'il ne voulait que la justice? Mais je ne pouvais pas lui dire. Cela aurait été trop ténébreux, absolument trop ténébreux. Marlowe se tut et s'assit tout seul, indistinct et silencieux, dans la pose d'un Bouddha méditant. Personne ne bougea d'abord. « Nous avons manqué le début du reflux, » dit le directeur, soudain. Je levai la tête. Le large était barré par un banc de nuages noirs, et le tranquille chemin d'eau qui mène aux derniers confins de la terre, coulait sombre sous un ciel couvert, semblait mener au cœur d'immenses ténèbres.